tu as deux micros, le micro de Radio Espérance et le micro de, que je vais te donner maintenant, qui est là. Tu te places, c'est-à-dire que tu sois bien à l'aise, tu nous dis quand tu es bien. Et alors tu vas parler pour voir si c'est suffisamment près, si les gens entendent bien.
Voilà, d'abord vous allez bien prier pour que je vous dise des choses bonnes sur le cœur de Jésus et comment Ignace nous achemine à la découverte du cœur de Jésus. Donc je compte beaucoup sur votre prière, parce que sans elle, eh bien voilà, je ne peux pas grand-chose, même si j'ai préparé soigneusement ce sujet qui me tient à cœur. Est-ce que frère Benoît, est-ce que ça marche? Ça va comme ça? Est-ce qu'on m'entend? On ne m'entend pas très bien là, apparemment. Surtout qu'il faut que je m'appuie un peu. Alors, qu'est-ce que tu fais?
Déjà, je vais en mettre un autre.
D'accord.
Qui est suivi de cette salle-ci.
C'est peut-être ma voix qui est abîmée, non? Ça va? Est-ce que ça va mieux, là? Vous entendez à peu près ce que je dis? Bon. Eh bien, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles et surtout notre cœur. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait, bon. Voilà. Viens, Esprit Saint. Viens nous éclairer, toi qui es la source vive, toi qui veux remplir nos cœurs de l'amour de Jésus et de l'amour du Père. Viens, Saint-Esprit, viens. Amen. Voilà. Il faut attendre, là. À moins que Benoît se soit éclipsé, non. Alors, voilà, très bien. Voilà, donc je veux vous parler de Saint Ignace, et qui nous introduit à sa manière vraiment dans le mystère du cœur de Jésus, par tout un chemin qui est celui des exercices spirituels. Mais si vous voulez, d'un mot, je voudrais commencer par la fin, quand Saint Ignace, déjà un peu âgé, à Rome, travaillant énormément pour commencer à mettre sur place, en place, le réseau, si je puis dire, apostolique de la Compagnie de Jésus naissante, et Saint Ignace, le soir, il se retrouvait sur la terrasse du Jésus, et puis là, il s'asseyait sur un petit tabouret, et puis il regardait le ciel étoilé, le ciel de Rome, et puis là, doucement, il pleurait. Il pleurait d'émotion, tellement il était ému de la beauté de Dieu, de la grandeur de Dieu, qu'il devinait bien sûr par-delà les étoiles, mais voilà, c'était pour lui un temps de repos dans le Seigneur où l'affectivité profonde de son cœur s'exprimait. Voilà. Et il bénissait le Seigneur. C'était des larmes d'émotion, c'était des larmes de joie qui coulaient sur le visage, le vieux visage déjà de notre Père Ignace. Je voulais terminer par cette image finale, en quelque sorte, d'Ignace, parce qu'auparavant, évidemment, il y a un chemin immense que nous ne pouvons pas parcourir en détail. Je ne sais pas, une conférence sur Saint Ignace, mais sur le chemin du cœur chez Saint Ignace. Et donc, à la fin, et tout au long de sa vie, finalement, il a été quand même touché par la souveraine bonté de Dieu. Et le cœur de Dieu, si je puis dire, la souveraine bonté de Dieu, ça revient souvent dans ses lettres. Au départ, Inigo de Loyola, fils de noble famille, qui a une place dans la société espagnole, dans le monde basque. Donc Inigo est un mondain, il a été page à la cour des princes, il a été séducteur, semble-t-il, assez séducteur de grandes dames, et puis il a été en même temps extrêmement fort, combattant, vigoureux, dans le combat en particulier de Pamplune. Et cet homme-là, au fond, va devenir très humble, très modeste. Il va être compagnon de Jésus. Vraiment, compagnon de Jésus. Et il va avoir cet accident, vraiment providentiel, il faut le dire, cet accident qui était un accident d'un homme courageux et téméraire en même temps, qui voulait défendre une cause perdue, qui était la citadelle de Pampelune. Et là, c'est un obus français. Bon, la France ne fait pas que des choses mauvaises, alors finalement, qui lui a fracassé la jambe et le genou. Voilà. Et tant et si bien qu'il a dû subir toutes sortes d'opérations de convalescence, et que c'est dans ce temps-là qu'il a vécu à Loyola qu'il a été touché par la grâce d'abord des saints et des saintes de l'Église, Saint Dominique, Saint François, pourquoi je ne serais pas comme eux? Et puis en même temps, ces rêves de vie mondaine qui demeuraient encore, ces rêves d'exploit pour conquérir la dame de ses rêves. Mais voilà, tout ça, c'était dans un grand partage. Et donc, notre père Ignace est entré, vous voyez, dans un chemin de conversion. Inigo de Loyola, qui a lâché ses habits de noble, son épée, etc., et puis qui a revêti une toile de sac, qui a été à Montserrat, puis ensuite à Morez, revêtu de la toile de sac. Et c'est là qu'à Morez, il a vécu vraiment un chemin progressif. Ce qui est frappant chez Ignace, c'est qu'il a un chemin qui fait que, petit à petit, dans son existence, il est vraiment passé de la tête au cœur. Voilà, c'est la grande affaire de nos vies. Voyez, la grande affaire de nous, hommes et femmes occidentaux, qui sommes beaucoup dans notre tête, bon, voilà. Passer de la tête au cœur, trouver vraiment la dimension cœur, c'est cela l'essentiel. Et donc ce chemin est très balisé parce que lui-même l'a vécu par étapes. C'est le chemin qu'il nous a donné dans les exercices spirituels et c'est celui-là que je veux essayer de vous donner parce que je crois qu'il nous branche sur le cœur du Père, le cœur de Jésus et notre propre cœur à nous. Vous voyez, c'est toujours, quand on parle du cœur, c'est la dimension cœur en nous-mêmes, en Jésus, et puis, voilà, dans le mystère originel et terminal du Père. Donc, je vais essayer de résumer un peu ce chemin, cet itinéraire. Alors, ça commence d'abord par ce qu'on appelle le fondement. Principe et fondement, voilà, c'est le point de départ. Et cet itinéraire est important, où Ignace dit, mais l'homme est créé, nous sommes des créatures. Et nous sommes créés pour quoi? Eh bien, nous sommes créés pour louer, pour, il dit, révérer, c'est-à-dire un espèce de respect amoureux, voilà, un respect amoureux de Dieu, révérer le Seigneur notre Dieu dans sa grandeur, et puis servir, notre Créateur et Seigneur, et par là, trouver l'accomplissement de notre être. Notre être ne peut s'accomplir dans sa dimension profonde, entre nous, disons-le, c'est pas marqué, mais dans la dimension cœur, l'homme ne peut s'accomplir que comme ça, louer Dieu, comme nous l'avons fait tout à l'heure, bon, louer, puis ensuite, révérer, un respect amoureux de la divine majesté, de la souveraine bonté de Dieu, sa splendeur, sa magnificence. Servir, bien sûr, c'est important. Et puis enfin, allez, pouvoir accéder peu à peu à la plénitude de notre être, c'est-à-dire nous qui sommes faits à la ressemblance, à l'image et pour la ressemblance de Dieu. Voilà, nous allons entrer là-dedans. Et alors, Ignace, tout au début, sent bien qu'il faut quelque part livrer sa vie, qu'il faut devenir disponible, voilà, et choisir ce qui va nous amener à cet accomplissement. Donc, il va essayer de nous inviter, lui-même est entré là-dedans, à une indifférence profonde. Une indifférence, ça ne veut pas dire n'importe quoi, ça ne veut pas dire on n'est pas passionné quelque part, hein, mais ça veut dire que peu à peu on devient entièrement disponible pour que on fasse non pas nos caprices, nos désirs propres, mais que l'on fasse vraiment la volonté de Dieu, la volonté amoureuse de Dieu, voyez, pour entrer dans la plénitude de l'amour, entrer dans la plénitude de Dieu. Donc voilà, ça c'est le principe et fondement. Vous savez, c'est déjà le manque de temps d'un combat quand on fait les exercices. Est-ce que je vais arriver à être comme ça, disponible, indifférent ? Voilà, et d'une certaine façon, à dire au Seigneur, ben oui, d'accord, je veux bien entrer dans ce mouvement-là, dans cette vie-là, voilà. Donc, ça veut dire que dans ce premier temps des exercices, le premier jour souvent, Père Glotin allait très vite là-dessus, une journée, c'est tout, moi j'ai quelquefois, ou même une demi-journée. Personnellement, j'insiste plus longtemps parce que je sens que c'est le lieu d'un combat quand on vit cette expérience-là. Et donc, on est déjà très touché par la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu. Ah oui, sa souveraine majesté. Bon. Alors, après ce préalable, principe et fondement, on entre dans ce qu'on appelle la première semaine. C'est comme ça, il y a 4 semaines qui sont, bon, la preuve, qui sont des semaines, comment dirais-je, strictes. C'est des temps, 4 temps, on va dire. Voilà. Donc, la première semaine des exercices, c'est que je me dis, mais attends, en fait, je dis que je suis disponible et indifférent pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois bien que en moi, il y a énormément de freins, énormément de choses qui résistent, qui résistent. Et alors, on va entrer dans un temps de méditation profonde, d'abord pour se dire, mais attends, il y a quelque chose dans la création qui est faussé. Il y a quelque chose dans la création qui est faussé, c'est ce mystère du péché des anges, de Lucifer, de la révolte, de l'orgueil contre Dieu. Et ça, on voit bien que ça a contaminé ensuite notre humanité à travers le mystère de la Genèse, ce qu'on voit avec Adam et Ève. On voit que tout ça a été abîmé, notre humanité a été abîmée. Et puis au fond, et moi alors ? Voilà, mais on part d'une perspective d'ensemble, puis on descend et on arrive donc à moi. Mais moi, attends, oh, mon ego est épouvantablement encombrant. Claude Lacolombière a tellement vécu ça, sur l'abjection de son moi, disait-il, l'abjection de son moi. Pourtant, c'était un saint homme. Mais voilà, il sentait que son ego avait beaucoup trop de place. Et alors, dans cette situation-là, c'est là qu'on entre dans la perspective de méditer, en quelque sorte, sur son enfer. Entendez, enfer, enfermement, vous voyez, enfer. Voilà, qui m'isole de Dieu, qui me tient loin de Dieu, voilà. Je sais bien qu'au fond, il y a la croix de Jésus qui est là. Jésus est là, je sais bien que quelque part, je suis miséricordieux, sinon je serais déjà mort, sinon je serais déjà disparu, parce que ma vie n'a aucun intérêt. Voilà, mais il y a la croix de Jésus, il y a une miséricorde qui est là, mais elle est au fond encore, elle est au fond. Et avant, il faut que je puisse méditer sur ce mystère de mon moi enfermé sur lui-même, que je me laisse toucher par le Seigneur. Peut-être que je puisse sentir que l'enfermement, mon enfer, laissé à moi-même, je dégringole, je vis, oh là là, c'est ma vie ça, dégringolade. Oui, mais Jésus est là quand même, je sais qu'il m'a fait miséricordier. Et plus j'avance dans ce sentiment d'abjection, disons-le, avec Claude, eh bien plus je vais sentir que, bon, le Seigneur, il est là, il est bon. Il me miséricordie, c'est la croix de Jésus. Et je vais même, contemplation des sens, dit saint Ignace, je vais un peu pleurer, je vais voir quelque part l'horreur de mon péché, je vais entendre les cris des damnés quelque part même, je vais sentir le souffre, je vais sentir toutes sortes de choses, je vais visualiser et être dégoûté quelque part par les 5 sens qui sont convoqués pour sentir que ben, finalement le péché, c'est quelque chose d'horrible, mon propre péché. Et puis je vais me laisser pardonner. Voilà, merci Seigneur d'être pardonné. Voilà, c'est la première semaine, c'est assez pathétique, vous savez, c'est vrai, et saint Ignace a vécu ça très fort, très fort. Et voilà. Alors, passage en deuxième semaine. L'itinéraire est bien balisé, vous savez. Vous voyez que le cœur est touché déjà, hein, dans la fin de la première semaine, avec la miséricorde de Jésus. Même si Ignace ne nomme pas le cœur, mais il est là, le cœur de Jésus. qui vient rejoindre mon pauvre cœur, voilà, partagé, mon cœur partagé, qui vient revitaliser mon cœur quelque part. Bon, voilà. Deuxième semaine, alors allons-y, la proposition Jésus. La proposition Jésus, écoute, est-ce que tu veux bien avancer pour le royaume des béatitudes? As-tu du cœur au fond? Est-ce que tu vas te laisser saisir dans la vie nouvelle avec Jésus, avec l'esprit des béatitudes? Voilà, ce sont les béatitudes, voyez, c'est ça. Est-ce que tu vas arriver à t'offrir généreusement pour tout le contraire de ta mondanité? Tout le contraire de ce que tu as vu au moment de méditer ton péché, tout le contraire. Est-ce que tu es prêt pour annoncer la civilisation de l'amour, dirons-nous aujourd'hui? Voilà, rejoindre les petits, les pauvres, rejoindre, voilà, mettre en valeur les plus petits, les pauvres. Et donc, vous voyez, c'est la contemplation du roi temporel et du roi éternel. On appelle ça, nous, la contemplation du règne, qui est très importante, vous voyez. Un des pivots des exercices. Et saint Ignace a vécu ça, elle a senti à un moment que, voilà, allez, il donnait sa vie au Seigneur, voilà, que c'était offert, c'était profondément offert. Et alors, avec ça, eh bien, il nous entraîne à méditer, voilà, et à contempler plus profondément toutes les scènes qui vont de la crèche jusque la montée à Jérusalem. Voilà, la crèche et l'annonce de la bonne nouvelle, et pas à pas, jour après jour, ça peut durer un peu la première semaine, la deuxième semaine, ça peut durer un peu, voilà, jour après jour, 4 oraisons par jour, ou 5 oraisons parfois, disait-il, et voilà, et avec des répétitions, pour que bien une méditation qui a bien marqué, on va la reprendre, quelquefois une contemplation spirituelle, avec nos sens spirituels, je vais y revenir dans un instant. Voilà, donc nous faisons un chemin très concret, voyez, pour visualiser l'Évangile. Ça, c'est une grande grâce d'Ignace. Visualiser l'Évangile, voir Jésus, voir la scène, les personnages, tout ça. On commence par bien visualiser, voyez, c'est important, là. Puis une fois qu'on a bien visualisé, on va interroger. Mais pourquoi tu fais ça, Jésus? Pourquoi tu réagis comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est l'entendement, comme dit Ignace, c'est l'intelligence qui va essayer d'approfondir la foi. Donc, visualiser, comprendre, et puis goûter qu'il y a un mystère d'amour de Jésus dans cette scène d'évangile. Par exemple, hein, le type qui est paralysé, là, qui est amené par ses 4 amis, il traverse le toit et qui descend auprès de Jésus. Alors, on va tout visualiser, voyez, c'est un peu... Ce n'est pas du cinéma, c'est du cinéma spirituel, comme vous voulez. Mais c'est très, très important. Voyez, pour eux. Jésus est incarné. Jésus, Ignace a le sens de Jésus incarné et de pouvoir entrer peu à peu dans le mystère de son cœur vivant dans toutes les scènes de l'Évangile. Voyez, voilà. Comment est-ce que Jésus? On le voit, on le comprend, on l'interroge, on le goûte. Et puis au bout du compte, c'est le colloque, comme on dit. Ah, le colloque, c'est un point très important, où on entre en dialogue avec Jésus comme un ami avec un ami. Voilà, voilà, de cœur à cœur, quelque part. Le mot cœur n'est pas dit, mais il est là, de cœur à cœur avec Jésus. Voilà, de cœur à cœur. C'est très, très beau, ça, voyez. Et donc, tout ceci va nous mettre peu à peu dans la justesse, dans la disponibilité de Jésus, dans sa bonté de Jésus. Voilà. Et voyez que Ignace fait toujours appel à toutes nos ressources humaines. Il dit, ben voilà, vous regardez votre intelligence avec votre imagination, avec votre mémoire pour bien vous souvenir de la scène, avec votre intelligence, avec votre volonté, et puis votre cœur. Vous arrivez à votre cœur. Donc il y a toujours une espèce de progression dans toutes les oraisons qui fait que peu à peu on passe de la représentation à la réalité spirituelle profonde vécue dans notre cœur. Voilà, ce sont des exercices, et peu à peu, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on descend de plus en plus de la tête au cœur, je crois. Voilà, c'est ça. Et le colloque, c'est ça. C'est le colloque de chaque oraison, Puis on recommence le parcours à l'horizon suivante. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, évidemment, il y a quand même des résistances énormes qui se manifestent. Il y a des moments de désolation, mon Dieu, des désolations. On se sent sec, on ne sent plus rien. Voilà, trouble, obscurité, et puis envie de tout arrêter. Moi, ça suffit. Surtout si on fait les 30 jours. Vous comprenez, 30 jours, c'est quand même long. Hein. Voilà, 30 jours. Là, bon, voilà. Donc, des moments de désolation, vous voyez. Et le cœur est sec. Mais qu'est-ce qui se passe, Jésus? J'avais l'impression que tu étais là, puis tu n'es plus là. Il n'y a plus rien. Voilà, sécheresse. Voilà. Et il y a un combat, parce que on sent bien que ces désolations ne viennent pas de Dieu. C'est évident, ce n'est pas lui, puisqu'il est, il s'est absenté. Le Seigneur s'est absenté. Voilà. Ça ne vient pas de moi non plus. Ce n'est pas moi. Non, donc il y a un esprit quelque part mauvais qui agit. Voilà. C'est la découverte du mauvais esprit quelque part. Et donc, peu à peu, on entre dans ce que Ignace s'appelle le discernement des esprits. Parce que le combat s'intensifie, le combat s'intensifie, et on va expérimenter le mouvement des esprits, les bons esprits qui viennent de Dieu et du Saint-Esprit, et les mauvais esprits. Voilà. Ignace a appris, non sans douleur, avec de grands combats, avec de grandes tentations à certains moments, le combat spirituel et donc le discernement des esprits. Et ça, il nous l'apprend. Il nous permet de l'apprendre peu à peu, la reconnaissance des mouvements de notre cœur profond, si différents des agitations du psychisme. Voilà. Le mauvais esprit ne peut pas entrer dans notre cœur, mais il se démène au niveau du psychisme, l'imagination, la mémoire, les mauvais souvenirs, l'intelligence qui a des mauvaises raisons, tout ça, voilà. Mais il ne peut pas entrer au niveau du cœur. Tandis que Dieu, lui, c'est les mouvements du cœur. La paix, la joie, la confiance, l'espérance, l'amour, voilà, c'est tout ça, hein, voilà, qui grandissent sans cesse. Voilà. Dieu parle au cœur. Et donc on se met à discerner beaucoup mieux de fur et à mesure, voilà, le psychisme et le spirituel, si j'ose dire. Hein. Le psychisme, ce qui est psychique, et ce qui est du cœur profond de l'homme, de l'affectivité la plus profonde. L'affectivité, pas l'affectivité sentimentale, non, l'affectivité la plus profonde du cœur. Vous voyez, on apprend ça peu à peu avec Ignace. Voilà, alors vient alors une méditation clé, je suis toujours à la fin de la deuxième semaine ici, la méditation clé qui est celle des deux étendards, l'étendard du Christ, l'étendard de Satan. C'est très imagé pour Ignace. Et c'est le combat donc entre le Christ qui est beau, qui est magnifique, qui est droit, qui est pur, qui est limpide, généreux, humble, humble et pauvre, et le Satan qui lui est quelque part puant d'orgueil, voilà, sulfureux, prince sulfureux de ce monde, ennemi de l'homme, mais avec toutes sortes de ruses qui sont toutes les ruses de Satan. Et donc je les vois camper, Jésus à Jérusalem, c'est imagé, et Satan planté dans la plaine de Babylone. Bon, c'était l'imagerie de l'époque, hein, peu importe. Voilà. Et donc, il faut que je choisisse. Qui choisirais-je? Le magnifique et humble Seigneur Jésus-Christ? Oui, aurais-je le courage de suivre son chemin, le chemin d'humilité radicale de Jésus, le chemin où on est prêt à toutes les humiliations, en quelque sorte, avec lui. Le courage de me mettre pour de bon avec Jésus. Mekoum, c'est le avec Jésus. Avec Jésus, voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Le mekoum des amis de Jésus. Un peu pressé, et il nous presse, Ignace, pour faire le choix, le bon choix, clair et décidé. Il nous bouscule un petit peu, il nous met dans nos retranchements. Les exercices, il y a ça aussi. De temps en temps, on est mis un petit peu dans nos retranchements spirituels pour dire, ben, allez, on y va. On fait le pas de dire, oui Seigneur, je veux. Voilà. Bon, on dit que c'est volontariste. Non, c'est pas volontariste, c'est mystique. C'est avec l'aide du Saint-Esprit, tout ça. C'est avec l'aide du Saint-Esprit, voilà. L'Esprit de Dieu anime notre cœur. C'est ça qui est important. Ce n'est pas volontariste, barre de fer, si j'ose dire. Non, c'est spirituel. Voilà. Alors, avec l'aide de la grâce, ô Marie, mère chérie, mets-nous avec Jésus. Marie, mère chérie, mets-nous avec Jésus. Et toi, Jésus, demande au Père de nous mettre avec toi. Voilà, c'est le triple colloque, voyez. Marie, Jésus, le Père. Le Père nous met avec Jésus. Et voilà, et nous sommes là dans l'amour de notre Mère du Ciel. Voilà, notre Père. Voilà, c'est le triple colloque qui nous unit donc, qui nous unit de cœur à cœur. Avec Marie, avec Jésus, avec le Père. Je devine que à ce moment-là, vous voyez, il y a quelque chose qui se décide à la fin de la deuxième semaine, c'est que je sens bien que le Seigneur m'appelle, d'une certaine façon, à ma conversion concrète. Ben, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Ma conversion concrète. Quel choix est à poser pour ma vie nouvelle avec le Christ Jésus, mon Seigneur? Je veux vivre ma vie nouvelle avec Jésus. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et le moment crucial, c'est donc celui de la grande décision qui a mûri peu à peu à travers les contemplations et les oraisons, oraison après oraison. Et Jésus regardait sur les chemins de Palestine et voilà qu'il me montre. Il me montre quelle décision est la bonne. Ça va être comme un fruit mûr, souvent. C'est un fruit mûr, mais en même temps, c'est un acte de liberté profonde, voyez. En toute liberté, je sens que le Seigneur m'appelle à ceci ou à cela. Peut-être à une vocation religieuse, ou à la vocation du mariage, ou des choses beaucoup plus simples de ma vie. Il m'appelle à une confiance beaucoup plus grande que je n'ai pas encore, parce que je me dérobe toujours dans mes doutes, etc. Vous voyez, la grâce propre de cette retraite que je fais maintenant. Voilà, pour Ignace, c'était très important. Donc, je m'offre de tout cœur pour ce projet de vie avec Jésus dans l'amour du Père. Voilà, alors ici, voyez, on a fini la deuxième semaine, on est arrivé au point crucial de ce qu'on appelle l'élection, c'est-à-dire le choix de vie, hein. Et Ignace a vécu ça, c'est évident. Et puis, on entre dans ce qu'on appelle la troisième semaine, qui est la contemplation de la passion d'amour de Jésus. Je sens que ma décision va être consolidée, va être confirmée dans l'Eucharistie de Jésus. Voilà, Jésus a tout donné le jour de son Eucharistie. Voilà, et j'ai désiré d'un grand désir vivre cette Pâque avec vous, et il se donne dans l'Eucharistie. Et nous, j'allais dire, notre choix de vie, le choix de vie d'Ignace a été posé, en quelque sorte, dans le mystère de l'Eucharistie de Jésus, son don total, son offrande parfaite au Père. Et voilà qu'à la suite de ça, on va méditer dans cette troisième semaine, on va méditer donc l'agonie de Jésus ensuite, la condamnation, les bouleversements de méchanceté autour de lui et sa manière de pardonner, d'aimer jusqu'au bout, jusqu'au mystère de son côté ouvert. Voilà, le côté ouvert de Jésus. Il a tout donné et coule le sang et l'eau. Voilà. Et alors je vois bien sûr la lance du soldat. Je vois comment Jésus est allé au bout de l'amour. Je vois Marie et Jean et je vois l'eau et le sang qui coulent du côté de Jésus. Ignace ne nomme pas le cœur, mais il est bien évident que le cœur est là, voyez, c'est sûr, hein, voilà. Parce que ce n'était pas encore dans le langage très fréquent de l'époque. Mais bon, Ignace, il est dedans déjà, bien entendu, voyez, très profondément. Voilà. Alors, dès lors qu'on a vécu ce temps de la passion d'amour du Seigneur, de son don total, eh bien, sans plus tarder, au-delà du grand silence du tombeau et de la visitation des profondeurs de la mort, je vois émerveillé, la manifestation de l'amour, la manifestation de la victoire du Christ, la gloire du ressuscité. Ça, c'est la quatrième semaine, souvent plus courte que les autres, parce qu'on n'y est pas encore, nous, ressuscités, pas complètement ressuscités, mais enfin, voilà, en espérance, on s'y met autant qu'il est possible, avec Marie, avec Marie de Magdala, avec les apôtres, Saint Jean, etc. Voilà. Joie, joie, pleurs de joie, comme dirait Pascal. Donc, le cheminement va se terminer ici par une contemplation détaillée des bienfaits de Dieu dans nos vies, pour vivre le grand appel à l'amour. Voilà. Il y a une sorte de contemplation finale pour obtenir l'amour, nous est-il dit. Voilà. Ad amorem, nous disons-nous. La contemplation pour obtenir l'amour, complètement. Et alors, on récapitule tous les dons de Dieu hein, dans notre vie, dans la vie qui nous a été donnée par l'Église, etc. Et puis, à chaque coup, à chaque étape de cette méditation, qui a quatre points, eh bien, au colloque, je te remets tout, Seigneur, donne-moi de t'aimer. Je te remets tout, Seigneur, donne-moi seulement de t'aimer. Donc, mon imagination, ma mémoire, mon intelligence, mon vouloir, écoute, tout ça, ça vient de toi, je te les remets, je te les confie, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes, hein, voilà. Mais moi, je te demande simplement de t'aimer. Donne-moi de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Vous connaissez bien ce chant que nous aimons beaucoup, n'est-ce pas hein? Donne-moi seulement de t'aimer, voilà, c'est ça, voyez. Que toute ma vie se vive désormais avec toi, dans la dimension cœur, je dirais, voyez. Là, c'est moi, c'est le mot vient de... C'est pas d'Ignace, directement. Que notre vie soit dans la dimension cœur, intégralement. Ton cœur, à toi, Jésus, bien sûr, le mien, celui du Père. Donc, c'est l'affectivité profonde, voyez, qui a été progressivement éduquée, réveillée. C'est pas facile, hein. Et c'est pas facile, dans les temps qui sont les nôtres, de passer de la tête au cœur, hein, une civilisation qui est aussi, comment dirais-je, organisée, rationalisée, essayer de l'être en tout cas, bon, etc. Mais que passer de la tête au cœur, trouver l'abandon véritable au niveau du cœur, ça ne veut pas dire qu'on devient idiot, ça veut dire que, voilà, on lâche prise, quoi, pour vraiment se laisser quand même inspirer par le Seigneur et suivre avec intelligence et vouloir, bon vouloir, ce que le Seigneur nous inspire au niveau du cœur. Donc voilà, nous sommes faits, je crois qu'Ignace veut nous entraîner à ça, dans la dimension cœur. Ton cœur, le mien, celui du Père. Voilà, affectivité profonde, tissée de générosité et de tendresse, qui doit s'éveiller à l'intérieur de chacun d'entre nous. Vous voyez, ça me fait pour ça, ça me fait pour cet éveil du cœur progressif. Hein. Générosité et tendresse à la fois. Oui, voilà. Donc, Ignace... Oui. Ignace est vraiment un contemplatif dans l'action parce que il est toujours attentif à l'incarnation de Jésus, au pas à pas de Jésus, vous voyez, dans sa vie en Palestine, mais aussi dans sa vie au milieu de nous, dans l'Église aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, Jésus est toujours là, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Ignace nous apprend à être attentif au pas à pas de Jésus, si j'ose dire, vous voyez, dans l'Évangile, en Palestine, mais aussi avec nous, au milieu de nous. Et donc, Ignace va être contemplatif dans l'action. Il va voir le cœur de Jésus à l'œuvre et cheminer avec Jésus. Mais ça va se faire avec les sollicitations de l'action, avec beaucoup de demandes qui viennent de part et d'autre, de personnes qui viennent nous appeler, etc. Et puis voilà, au pas à pas, des rencontres, des actions à vivre, voilà, des œuvres apostoliques à mener, que sais-je. Eh bien voilà, Jésus est là. Et puis il agit dans nos cœurs, il agit dans le cœur des personnes que nous rencontrons, il agit, il est le Seigneur. Oui, voilà. Et donc une espèce de docilité, vous voyez, Ignace est contemplatif dans l'action. Il vit le discernement spirituel pas à pas, au milieu de ce monde, avec les terrains, les tensions, les appels de ce monde et de notre humanité. Voilà. Pour que le mystère de IHS, Jesus Humanitatis Salvator, le mystère de Jésus Sauveur du monde, se réalise. Voilà. IHS, vous savez, on a ça, IHS au fronton de beaucoup d'édifices, jadis qui étaient ceux de la compagnie. Puis ça s'est répandu par après. Voilà. Donc, on va vivre ça. Et il a donc saisi des compagnons qu'il a un petit peu, comment dirais-je, conduits et qui ont vécu ce chemin eux-mêmes. Avec Ignace, ce n'est pas une doctrine imposée de l'extérieur. Avec Ignace, c'est un chemin où chacun va vivre cette expérience de la tête au cœur, donc, de la tête au cœur. Vous voyez, c'est très personnel, finalement. Certains diront que c'est très individuel, individualiste. Non, non, c'est très personnel, parce que chacun est invité à vivre ce chemin de découverte, de discernement et d'offrande de soi. Donc voilà, Ignace aura été tour à tour pèlerin, il a été longtemps pèlerin, après avoir quitté Loyola, converti déjà, mais pèlerin, voilà, Morrèze, étudiant à Jérusalem aussi, étudiant âgé, il a dit il faut faire des études pour pouvoir servir le Seigneur, d'aller à Paris finalement, courageux pour travailler, passionné de la gloire de Dieu, et avec l'art de la conversation pour essayer de rejoindre les gens là où ils sont. Et Ignace va se retrouver avec ses compagnons à Rome pour s'offrir au service de la papauté, qui, entre parenthèses, était bien délabrée. Il y avait eu le sac de Rome il n'y a pas très longtemps avant, et ça avait été terrible, épouvantable. Et il faut avouer que Rome n'était pas en très bel état, en la papauté elle-même. Ce n'était pas formidable. Hein. Bon, bref. Et Ignace et les compagnons sentent qu'ils doivent aller s'en remettre au pape pour savoir quelle mission il veut pour eux. Voilà, obéissance dans l'Église. Donc, en allant vers Rome, à quelques kilomètres de la ville, il arrive à une petite chapelle de la Storta, c'est comme ça qu'elle s'appelle, où il s'arrête. Et il a tellement demandé en route de Venise jusqu'à Rome en particulier, à pied bien sûr, il a demandé à Marie qu'elle intercède pour qu'il soit mis avec le Christ, par le Père. Voilà ce qu'il a demandé. Il a demandé ça à Marie, beaucoup, beaucoup. Marie demande à Jésus, demande au Père que je sois mis pleinement avec le Christ. Et voilà qu'il y a cette vision qui est très importante pour Ignace et pour la compagnie, la vision de la Storta, hein, où il voit Jésus qui apparaît portant sa croix. Et puis le Père, et le Père dit à Ignace, je veux que tu nous serves, je veux que tu nous serves, voilà. Moi le Père, Jésus le Fils, portant sa croix, je veux que tu nous serves, voilà. Et il ajoute à un moment, je vous serai propice à Rome, voilà, vous allez aller à Rome et là, vous serez au service de l'Église et du Pape, et je vous serai propice. Ignace se demandait si c'était pas une, ça n'allait pas être une persécution qu'il allait voir Jésus en croix. Il dit, qu'est-ce que ça va être? Bon, enfin voilà, ils vont partir vers Rome. Donc à travers tout ça, vous voyez, c'est la grâce du cœur. Le cœur du Père, le cœur de Jésus, le cœur d'Ignace. Et puis bien sûr, celui des compagnons. Celui de notre cher Claude la Colombière, évidemment. Fidèle serviteur, parfait ami. Je crois que Claude la Colombière a vécu pleinement ses exercices spirituels, voyez, à la fois dans sa grande retraite du troisième an, qui a été une conversion définitive, vraiment une entrée dans l'intimité du cœur du Christ, après avoir reconnu son abjection, comme il dit, alors que c'était quand même un homme assez remarquable, mais non, il reconnaissait qu'il s'aimait trop lui-même, que son égo avait trop de place, son abjection, il l'a reconnu. Et là, il s'est converti tout à nouveau, pour suivre Jésus au plus intime. Et c'est là que Jésus l'a nommé auprès de Marguerite Marie, fidèle serviteur et parfait ami. C'est quand même beau ça, hein ? J'aimerais bien que le Seigneur puisse me dire ça. dans mes vieux jours. Oui, bon, amen. Donc, voilà, en pleine consonance, que de la Colombière, avec la grâce reçue par Marguerite Marie. Bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà, vous voyez, c'est grâce du cœur. L'Esprit Saint n'est pas nommé dans tout ça, mais il est omniprésent dans le discernement quotidien de la volonté de Dieu, et puis dans cette vie de découverte du mystère de Jésus à travers tous les passages de l'Évangile que l'on médite au fur et à mesure. Et l'Esprit Saint, donc, va donner qu'on acquiesce pour dire « Allez, d'accord, d'accord pour un don un petit peu plus généreux de moi, toujours plus, toujours plus. » Alors vous avez un mot qui s'appelle « magis ». C'est pas magique, hein, c'est magis, magis, c'est-à-dire plus, plus, voilà. Hein. Ignace, pour Ignace, ce mot-là, sa vie et la vie de la compagnie est marquée par le magis, plus, plus, plus d'amour, évidemment, hein, plus de don de soi. Et ça se conjugue avec ad majorem dei gloriam, pour une gloire plus grande de Dieu. Ad majorem, pour une gloire de Dieu toujours plus grande. Voilà, avec Dieu, on n'a jamais fini d'aller de l'avant et d'annoncer la splendeur de son amour. Voilà, ad majorem dei gloriam. Voilà, je crois que nous allons en rester là et remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir cheminer avec notre Père Ignace. Amen. Confions-nous à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.